Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Journalisme, un métier de plus en plus risqué au Mali. En 10 ans, une dizaine de journalistes ont été tués au Sahel et plus d'une centaine arrêtés selon Reporters sans frontières. L'ONG estime qu'il est presque impossible de faire du journalisme d'investigation au Sahel. Le 2 novembre de chaque année est une journée de rappel de tous les crimes commis contre les journalistes. Où en sommes-nous donc avec la défense des droits des journalistes? Quelle explication à la multiplication des enlèvements et disparitions des journalistes? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose donc le débat avec trois invités. Modibo Fofana, président de l'Appel Mali, Issiaka Tamboura, directeur de publication de l'hebdomadaire Solft, et Massiré Diop du journal indépendant. À la présentation, je suis Mirana Kilomaiga, invité, auditeur, téléspectateur. Vous connaissez sur 85 Radio et 3 Télévisions. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Modibo, que représente la journée internationale de la fin de l'impunité pour les journalistes?
Merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau de Studio Tamani. Je suis déjà un habitué à ces studios. Également, la journée internationale contre l'impunité représente une journée d'hommage aux journalistes disparus. Et puis également des journalistes aussi qui ont été enlevés, qui ont été intimidés et également même qui ont été envoyés en prison. Et c'est une journée de commémoration, surtout à nous les journalistes, de faire un rappel que cette journée internationale de lutte contre l'impunité ne doit pas au moins mettre en péril la liberté d'expression et la liberté de la presse.
Comment se présente la pratique du journalisme au Mali?
Bon, actuellement, au Mali, la pratique du journalisme a évolué. C'est vrai, surtout avec l'ère numérique aujourd'hui, il est très difficile de faire un distinguo entre les vrais journalistes et ce qu'on appelle les créateurs de contenu, les créateurs de contenu web. Mais la pratique journaliste reste professionnelle, parce que déjà les professionnels sont très bien organisés au sein des différentes associations, communément appelés les FETCHER. Il y a l'URTEL, l'Union des radio-télévisions du Mali. Il y a également l'ACEP, les journalistes qui sont organisés au niveau de la presse écrite. Et au niveau de la presse en ligne, les journalistes sont très bien organisés. Et on fait de telle sorte au moins pour qu'on puisse respecter ce qu'on appelle les fondamentaux du journalisme. Et dans la pratique journalistique, d'ailleurs, Sidio Tamani, c'est un exemple ici, j'ai toujours dit, pour le respect de l'éthique et de l'ontologie journalistique. Malgré l'ère numérique, les radios restent toujours des médias qui sont inoxydables. La presse écrite également fait son travail régulièrement, même si aujourd'hui, certains bimédias existent, parce qu'il y a des presses écrites qui basculent aujourd'hui dans le numérique. Et au niveau de la presse en ligne aussi, les journalistes travaillent régulièrement, ils exercent cette profession, même peut-être avec réserve, parce qu'on est dans un contexte qui est particulier. Il faut reconnaître que la pratique du journalisme se fait souvent avec prudence. Pour ne pas vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle l'autocensure. Peut-être c'est le contexte. Certains vont dire peut-être qu'on s'appuie sur les fibres patriotiques. Mais compte tenu du contexte, la pratique du journalisme n'est pas à 100%, parce qu'au moment où les journalistes s'autocensurent, il faut reconnaître que d'une part, on a souvent la peur au ventre de toucher à certains sujets, mais également, je peux dire qu'on se conforme peut-être au contexte actuel, parce que les textes ne sont ni bibliques aussi, ni des versets coraniques.
D'accord. Alors, le 2 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale de la fin de l'impunité contre les journalistes. Le contenu de cette journée représente à quelle particularité pour les journalistes maliens ici à Katamboura?
Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est la première fois pour moi d'accepter de venir sur un plateau de télé et de radio depuis 2018. Et donc, je voudrais dire que La journée du 2 novembre, comme vous le dites, représente une journée capitale pour nous, journalistes au Mali et un peu partout dans le monde. Parce que, comme vous vous rappelez, en 2013, le 2 novembre 2013, on a perdu deux de nos confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été enlevés à Kidal, en pleine ville. Ensuite, conduits vers la brousse et assassinés lorsque leur véhicule est tombé en panne. Et donc, malgré que des enquêtes aient été ouvertes 10 ans après, et les enquêtes ne bougent pas. Vous voyez, donc 10 ans après, on ne sait pas beaucoup sur l'affaire, en France, ni en France, ni au Mali. Et il faut dire que cette journée est restée gravée dans nos mémoires parce que malgré que nous ayons perdu nos deux confrères, et on ne voit pas beaucoup de choses qui bougent au niveau de la justice. Et nos confrères continuent d'être enlevés et tués dans une quasi-totalité, quasi-totale impunité. Je crois que cette journée du 2 novembre est une journée pour nous de faire un peu le bilan sur ce qui s'était passé et d'appeler aussi à la justice, d'en appeler à la justice afin que nous puissions savoir beaucoup plus sur cette affaire d'enlèvement de nos confrères, d'abord Ghislaine et Claude, auxquels nous rendons aujourd'hui hommage. Ensuite, nos deux confrères maliens, Niali Bouli et Moussa Babanadiko, qui ont été enlevés il y a deux ans de cela. Je crois que c'est une journée qui n'est pas une journée négligeable pour nous. Ça nous permet de nous commémorer, de rendre hommage, comme l'a dit le président, nos confrères, et d'en appeler aux autorités à ce que les questions d'enlèvement des journalistes et d'assassinat des journalistes soient prises au sérieux, sans oublier le cas de Birama Touré, enlevé en janvier 2016, et dont on n'a encore plus les nouvelles. Donc ce n'est pas seulement une journée de commémoration, mais c'est une journée de plaidoyer aussi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Selon le président Modibo Fofana, au regard du contexte actuel du Mali, au regard également du contexte actuel du Mali, le journalisme n'est pas pratiqué à 100% dans le pays. Est-ce que vous partagez son analyse?
Je partage son analyse. Si ce n'était pas mon président, j'aurais dit que je n'étais pas trop en phase avec ce qu'il dit, sauf qu'il dit la vérité. Mais moi, je voudrais aller beaucoup plus en détail pour dire qu'il parle de l'autocensure. Il a raison, parce que nous, journalistes, on est obligés quelquefois de taire certaines affaires, de ne pas toucher à certains sujets, de ne pas parler de certaines choses. Je pense que... Vous savez, quand on parle de liberté d'expression, il y a cette liberté d'abord du journaliste à pouvoir dire ce qu'il doit dire, et la liberté des médias aussi à traiter tous les sujets, et aussi la liberté des citoyens à pouvoir s'exprimer dans les médias. Et vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, tous les sujets ne sont pas à aborder. Il y a des sujets que vous n'aborderez pas, vous êtes obligé de vous limiter à un certain niveau, et ça, c'est de l'autocensure, et l'autocensure, ce n'est que la censure. Je pense que la pratique journalistique au Mali, même si ceux qui sont des militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir ne prennent pas les journalistes de la presse écrite qui sont régis par les régimes de délits et de presse au Mali, même s'ils ne sont pas victimes des brimades, il y a quand même cette violence morale qui est sur nous journalistes, parce qu'on est, on ne touche pas à tous les sujets. Si vous touchez à tout le sujet, vous allez comprendre. Voilà.
Massiré Diop, selon Reporters sans frontières, en 10 ans, une dizaine de journalistes ont été tués au Sahel et plus d'une centaine arrêtés, affirmant qu'il est difficile de pratiquer du journalisme d'investigation au Sahel. Partagez-vous cette alerte du Reporters sans frontières?
Bonsoir tout le monde et merci également de m'avoir invité. Excusez-moi. En fait, c'est une situation assez difficile que la presse vit en ce moment. Et ce point de vue du reporter de l'ONG Reporters sans frontières décrit en quelque sorte cette situation que nous vivons aujourd'hui. La pratique est devenue très difficile. Et il y a beaucoup d'autocensure. Et puis aussi, ajouté à cela, vous avez des gens qui sont très mal informés, à qui on fait souvent confiance pour pas remplacer les journalistes, mais en tout cas qui prennent, en fait, qui occupent un rôle de plus en plus important dans la société. Et c'est une situation assez, assez grave. Donc, pour moi, en tout cas, ce point de vue a nettement sa place au regard du contexte que nous connaissons aujourd'hui.
Au regard du contexte que nous connaissons aujourd'hui, est-ce à dire que les journalistes maliens courent un danger aujourd'hui, où il y a un risque de menace contre les journalistes maliens?
Non, vous savez, le journaliste, je veux dire que le risque est permanent pour le journaliste. Même si ce n'est pas des régimes d'exception, même Birama Touré, par exemple, dont on parle, ce n'est pas un régime d'exception. C'est pourtant un régime démocratique, un régime démocratiquement élu. Donc vous voyez que la pratique du journaliste, c'est au quotidien, c'est au jour le jour. C'est vrai que dans des situations de régime d'exception, on a à peu près les projecteurs qui sont plus braqués, mais même en temps de ce qu'on peut appeler démocratie ou autre, les journalistes ne sont pas aussi de tout repos. La pratique est toujours très difficile parce que, vous savez, le métier que nous faisons, même la nature du métier que nous faisons montre déjà cette difficulté. Parce que très souvent, vous voyez comment l'opinion arrive à se faire toute une idée sur quelque chose. Et je sais, Dieu merci, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui luttent contre ces fausses informations. Et c'est l'occasion de saluer le président de Appel Mali et d'autres qui sont un peu dans ce secteur. Mais c'est extrêmement difficile, surtout quand vous êtes en face d'une population à un pourcentage qui a un pourcentage assez large composé d'analphabètes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est au quotidien que cette pratique devient de jour en jour très difficile.
Président Modibo, vous avez parlé de l'autocensure. Est-ce à dire qu'il y a des risques que les journalistes maliens courent?
Oui, une très bonne question. Déjà, j'aime ma voix à celle de Massiré Diop et également Tamboura. Et la profession journalistique, déjà, c'est une profession d'élix. Généralement, depuis à l'école, il y a des professeurs quand même qui préparent les étudiants psychologiquement, parce que nous sommes la voix du peuple. Et tout ce qui est lié à l'intérêt général doit être traité de façon journalistique et publié. Et en matière de journalisme, souvent on le dit, il n'y a pas de questions tabou. Ce que les gens murmurent bas, les journalistes doivent porter. Nous sommes la voix des sans-voix. Tous ceux qui exercent une telle profession, forcément, c'est une profession élite. C'est la raison pour laquelle ils ont adopté une loi spécifique pour protéger les journalistes, notre loi 046. Parce qu'ils savent très bien que nous sommes sur un terrain, de temps en temps, ce terrain peut être glissant. Peut-être le contexte actuel, Massiré a si bien évoqué, je peux même dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais malgré cette situation exceptionnelle, on peut dire aujourd'hui que le cas de Birama qui a été enlevé, je ne sais pas si je dois confirmer qu'il est mort ou pas, mais il a disparu depuis le 29 janvier 2016, 7 ans bientôt. On ne sait pas où il était, alors qu'on était dans un régime normal, démocratique. Alors qu'actuellement, on est dans un contexte qui est particulier. Et ceux qui sont au pouvoir, on ne sait pas si on est dans la Constitution ou si on est dans la Charte. Imaginez, il y a déjà une pression qui est sur les journalistes. Même si on ne vous dit pas que la liberté d'expression ou la liberté de la presse est en danger, mais quand même, il faut y reconnaître qu'actuellement, la pratique journalistique est très, très difficile. Il faut savoir où mettre les pieds. Et puis, secondo, il faut également être en phase avec l'opinion. C'est vrai, certains de mes collègues ont évoqué avant moi, jusqu'à présent, les autorités n'ont pas arrêté un journaliste ou enlevé un journaliste, mais il y a des chats noirs qui sont souvent sur la toile, qui s'attaquent violemment à certains journalistes juste pour avoir exercé sa profession. Souvent, je peux dire, il y a certains qu'on les appelle les web activistes, fabriquées, entretenues, qui s'attaquent à des journalistes parce que ces journalistes sont en train de faire son travail. Imaginez la pression sur nous. Et de telle sorte que toi, journaliste professionnel, j'ai évoqué lors de ma première intervention, tu es obligé de faire l'autocensure et puis d'être compris. Parce que là, nous, on écrit, comme il a si bien dit au niveau de la presse écrite, nous ne nous écrivons pas pour nous-mêmes, mais nous écrivons pour nos lecteurs, mais nous écrivons également pour le public. Là, il faut faire tout pour au moins être en phase avec l'opinion nationale et internationale. Et le contexte, quand même, favorise aujourd'hui que notre pratique journalistique est un peu en difficulté. Pour ne pas dire même la pratique journalistique est en souffrance, surtout avec l'émergence de certains informateurs qui n'ont ni envie ni la vocation d'exercer cette profession et qui se mélangent à nous et qui commencent à ternir notre profession.
Vous avez fait cas de la disparition de Birama Touré, pour qui les autorités avaient annoncé l'ouverture d'une enquête. Que sait-on des autres journalistes, notamment Amadou Niali Bouli et Duco, qui ont été enlevés?
Exactement. Il fut un moment, l'enquête a été ouverte sur ce dossier. D'ailleurs, moi, je pense que la transition allait être la période idéale pour au moins faire la lumière sur cette affaire qui dure il y a bientôt 7 ans. Mais malheureusement, vous avez suivi avec nous, les dossiers ont été ouverts et c'est comme on ne ferme jamais des dossiers au Mali. Mais quand même aujourd'hui, on peut dire que les dossiers sont classés sans suite, ce qui cadre parfaitement avec l'impunité contre les journalistes, raison pour laquelle cette journée même a été créée par la France, au moins, pour préserver la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais aussi pour protéger les journalistes. L'affaire de Birama Touré, aujourd'hui, personne ne peut confirmer que Birama Touré est mort. Ou c'est vrai, l'organisation de l'ONG Reporters sans frontières, dans un rapport, a bien confirmé que Birama Touré serait mort tant. Mais nous, aujourd'hui, aucune enquête n'a confirmé que Birama Touré a été tué ou bien il est mort. C'est pourquoi on est très prudent. On dit qu'il a toujours disparu depuis le 29 janvier 2016. Et les dossiers restent sans suite.
D'accord. Ici à Katamboura, vous avez été une fois enlevé. Pouvez-vous nous partager votre vécu?
Bon, mon vécu, je le partagerai. Je vais le résumer un tout petit peu, puisque c'est long. Écoutez, c'est 54 jours de captivité. Mais je suis en train de faire un bouquin. Et je suis je progresse beaucoup. Je suis édité chez Gallimard à Paris. Pour vécu, il a été très difficile. Et là, ça va me permettre d'interpeller beaucoup les journalistes. Les journalistes qui traitent l'information chaude, comme on l'a dit. Et moi, j'ai été enlevé le 27 décembre 2018, lorsque je revenais d'un enterrement de mon oncle dans le centre du Mali. J'ai été enlevé sur la Nationale 16 entre Boni et Douanza et amené dans le buisson, ensuite dans le désert, et dans la zone des trois frontières, par Al-Qaïda. Parce que c'est la Katiba Massina, c'est la Katiba Serma qui opère dans cette zone-là. Donc j'ai été enlevé vers 10h, le 27 décembre. J'ai fait quand même le tour du Sahel pour me retrouver un peu vers le Bourma, ensuite pour me retrouver dans ce qu'on appelle la zone inondée, où j'ai passé plus d'un mois. Ensuite, ma libération a été obtenue grâce à des négociations faites par les autorités maliennes à l'époque, que je remercie de passage. Et je remercie tous les confrères d'ailleurs qui se sont battus, et ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là, et voilà, tous les confrères qui se sont battus pour que je sois libéré sans qu'il y ait de coup de feu. Et je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur ma captivité, mais bon.
Pendant que vous étiez en captivité, est-ce que vous vous êtes imaginé une fois que vous allez revenir en famille sain et sauf?
Non. Tu ne peux pas être otage d'un groupe armé, djihadiste, et espérer revenir. Ça, ce n'est pas possible. Vous allez devoir vous résigner. Si vous êtes courageux, vous allez devoir devenir fou si vous ne voulez pas. Mais de toutes les façons, ces gens, quand ils vous prennent, ils vous prennent. Et vous êtes pris, vos yeux sont bandés. Parce que moi, lorsqu'on m'arrêtait, j'étais dans la Mercedes, tout seul. Parce que même que j'ai eu écho de ce qui allait arriver. Mais c'était la méthode que j'ai tracée avec ma mère, paix à son âme. Il faut partir seul. Puisque si tu vas avec les gens, ça se passera autrement. Donc on a réfléchi pendant 24 heures, ma mère et moi. Elle me dit, vas-y, prends seul le chemin. Je sais que ça va aller. Tu iras seul. S'ils ont des questions à te poser, s'ils ont quelque chose à te demander, tu vas répondre. De toutes les façons, je sais que tu es innocent et tu sais que tu es innocent. C'est mieux. Puisque vous savez, la méthode de ces groupes armés, lorsqu'ils vous enlèvent, en présence de personnes, vous risquez gros. Maintenant, puisqu'on a besoin de vous, si vous n'avez pas d'échappatoire, il faut vous rendre. Si vous n'avez pas d'échappatoire, il faut chercher à s'échapper si c'est possible. Faites tout pour ne pas être pris. Mais si vous n'avez pas le choix, faites tout pour être pris tout seul. Donc c'est la méthode que j'ai convenue avec ma mère. Et j'ai pris le chemin. Je conduisais la Mercedes à près de 100 km/h. Lorsque ils ont commencé à tirer sur le véhicule, j'ai perdu deux pneus, deux roues qui ont éclaté. Finalement, j'ai freiné. À cet instant précis, j'ai essayé de faire marche arrière parce que avec le poste de la gendarmerie qui était par derrière, que j'ai dépassé, je n'étais qu'à 10 km. Est-ce qu'en faisant marche arrière, ça pouvait marcher? Non, les pneus sont crevés, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois devant moi des hommes armés qui me pointent, qui me mettent en joue. Écoute, je me rends en tant qu'homme. Je sors, je me rends, on me bande mes yeux depuis ce jour jusqu'au jour de ma libération. Mes yeux sont restés bandés, sauf la nuit. Et une fois qu'on vous enlève, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on m'a amené en brousse et puis on m'a mis des fers, ensuite menotté. Mais par le moment, la situation s'est améliorée. Parce que là, vous rencontrez des personnes quelquefois qui sont sévères, vous rencontrez d'autres personnes qui sont assez gentilles. Et donc, c'est comme ça, quoi. Partout, vous trouverez les gens qui sont méchants. Il n'est pas exclu que vous trouviez des personnes aussi gentilles, quoi. Donc, c'est un épisode qui a été difficile. Mais moralement, je me suis armé. Puisque je sais ce que je me suis dit avec la maman. Donc, quelle que soit la situation, vas-y, dis ce que tu as à dire. Je suis sûr que tu es innocent. Et difficilement, en tant qu'innocent, tu disparais si tu es seul. Va, affronte-les en tant qu'homme. Dis-leur ce que tu as à dire. Je suis allé, je leur ai dit. Je ne sais pas si vous avez une autre question.
Après 54 jours de captivité, une fois de retour en famille, est-ce qu'il vous arrive deux fois à faire des cauchemars, vous rappeler des nuits que vous n'avez pas passées très bien?
Non, à part la première nuit que j'ai passée à Bamako ici, cette nuit, quand je suis revenu, c'est moi. Voilà, et au réveil, je me suis réveillé, mais c'était dans ma chambre. Donc je me suis dit, aujourd'hui quand même, c'est pas là-bas, c'est pas dans les buissons. Chez moi, à part ça, j'ai pas fait d'autres cauchemars. En fait, la vie, c'est ça, la vie, il faut vous attendre à tout, en fait.
Est-ce que vous avez eu un accompagnement psychologique?
Bon, peut-être que un accompagnement psychologique, c'est peut-être des amis et des confrères, des amis surtout. J'ai eu des amis... qui m'ont fait asseoir, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, voilà, écoute, fais les dépassements. Mais écoutez, vous savez, quand vous parvenez à vivre 54 jours de terreur et que vous revenez, je ne peux pas dire que vous n'avez pas besoin d'accompagnement, mais c'est que vous êtes resté courageux et ce n'est pas facile. Celui qui vous dit que c'est facile, c'est qu'il n'a pas goûté. Et puis, en captivité, entre les mains de ces groupes armés, le plus difficile, c'est la première nuit, en fait. vous ne pouvez pas vous rendre quelqu'un, vous qui n'avez jamais été convoqué, même à la police. Vous voilà dans votre voiture. 5 minutes après, vous voilà enchaîné, attaché à l'arbre. Vous ne pouvez pas bouger. Vos yeux bandés. Vous êtes en vie. Et c'est vous. Vous n'y revenez pas. Cette nuit-là, vous ne dormirez pas. Vous ne pouvez pas imaginer que la vie n'est pas en train de devenir un rêve. Est-ce que réellement c'est de la réalité que vous êtes en train de vivre? Mais une fois que vous dépassez cette nuit, bon, écoute, ça devient de la routine. Après, vous avez de l'espoir à repartir. Vous pouvez faire des réclamations, vous pouvez souffrir. Parce que moi, j'ai vécu les bombardements du 5 janvier 2019. Ma voiture y a été bombardée. J'ai vu comment la terre tremble quand ça bombarde. Après, on nous a poursuivis, l'armée nous a poursuivis à quelques endroits. Après, on est assis, il y a des serpents qui viennent. Après, ça bombarde. Après, on déménage. Vous voyez, 2 ou 3 jours, vous déménagez. Donc, c'est une situation très difficile. Mais à force d'y rester, vous vous habituez. Bon, quand vous êtes un homme aussi, la vie, c'est comme ça. À tout moment, tout peut arriver, quoi.
D'accord. Alors, Massiré Diop, pourquoi les journalistes sont de plus en plus menacés comme ça?
Bon, c'est enfin une question assez difficile à répondre. Parce que, vous savez, nous donnons des informations. Et ces informations, ce n'est pas tout le temps que ça peut faire plaisir à certains. Certains pourront voir à travers ces informations que les intérêts sont menacés. Vous savez, les journalistes, parfois, on le conçoit comme quelqu'un qui ne fait que répandre de la mauvaise nouvelle quand il veut faire son travail sérieusement. Parce que c'est ça qui permet un peu de changer le comportement. Le travail que nous faisons, c'est un travail extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de contraintes. D'ailleurs, les Arabes ont une définition du métier du journalisme. Ils disent que c'est le métier des contraintes. C'est le métier des contraintes parce que si tu veux faire ton travail correctement, il y aura toujours certains qui vont sentir leurs intérêts en jeu. Parce qu'ils n'aiment pas que cette vérité que tu vas dévoiler puisse être révélée au grand jour. Donc c'est pour cela que nous sommes en danger en permanence, quoi. Est-ce que vous voyez? Et puis, sans compter aussi, des fois, quand vous êtes un journaliste qui fréquente beaucoup le terrain, là encore, vous passez à une autre étape. Vous passez à une autre étape parce que vous allez, au fur et à mesure, vous rendre compte de certaines choses qui ne sont pas du tout orthodoxes. Vous n'êtes pas un journaliste. J'ai toujours l'habitude de le dire, c'est pas un super-héros. On n'est pas Batman, Superman ou quoi que ce soit. Nous ne sommes qu'un élément de la société. Et en tant qu'élément de la société, nous devons seulement jouer notre partition. Nous avons choisi une vocation qui est, comme l'a dit le président tout à l'heure, être la voix des sans-voix. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes le personnage principal. Aujourd'hui, c'est ça qui arrive aujourd'hui comme difficulté. Vous avez des journalistes qui se croient hommes à tout faire, hommes à tout connaître. Alors que, d'ailleurs, moi-même, vous savez, depuis que j'ai commencé ce métier, et je vous assure que ce n'est pas hier, les deux valeurs cardinales que j'ai toujours prônées, c'est surtout le partage et l'humilité. Le partage et l'humilité. Parce qu'un journaliste n'est pas censé tout connaître. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, pourquoi nous allons chez les gens pour pouvoir les interroger, pour pouvoir rapporter leur vécu, pour pouvoir rapporter leur situation? C'est parce que, tout simplement, nous sommes conscients que nous ne connaissons pas tout. Et en plus de ça, à travers cette interaction, il y a ce partage qui nous lie avec l'autre. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on doit, en tant que journaliste, se rabaisser, avoir la tête sur les épaules, ne pas se dire qu'on est homme à tout connaître et homme à tout faire. C'est impossible. Et un journaliste, tant que tu n'as pas vu une situation de tes yeux, lui, son témoignage, c'est un témoignage vivant. On n'est pas à sa place. Ce qu'il a vécu, il est le seul à pouvoir raconter ça comme il se doit. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui sont tranquillement au chaud, qui essayent de vous décrire des scènes de guerre ou bien des scènes de je ne sais pas comment, alors qu'ils n'ont même pas bougé de chez eux. Vous voyez la nuance ?
D'accord.
Et vous avez des gens qu'ils donnent leur vie pour avoir ces informations-là.
Comme vous l'avez dit, il a parlé tout de suite de son vécu pendant 54 jours de captivité. Alors, y a-t-il réellement une véritable lutte contre l'impunité au Mali ?
Je crois qu'envers les journalistes, il le faut. Il le faut, parce que... Vous
est-ce
savez,
qu'il y a vraiment une véritable lutte
je ne le dirai
envers
pas.
Les journalistes ?
Je ne le dirai pas. Au moins, il y a... je veux dire qu'il y a des tentatives de lutte, mais la lutte au vrai sens du terme, je pense que c'est un objectif ou bien c'est un combat de longue haleine, vous voyez. Donc ce n'est pas acquis. Donc cette lutte, c'est un combat de tous les jours. C'est véritablement le parcours du combattant. Et vraiment, s'il y a lieu de faire une lutte aussi, c'est vraiment une lutte contre l'impunité aujourd'hui qui frappe les journalistes. Parce que c'est pas que vous avez l'État qui vous fait ceci, c'est... Non, parfois il l'a dit. C'est des gens, des chats noirs ou chiens noirs, je ne sais pas comment il les a appelés, qui sont derrière leur clavier et ils vous prennent pour cible. Et vous avez vos têtes dans beaucoup de groupes WhatsApp. Voilà l'ennemi du pays, voilà celui qui est déstabilisateur, voilà celui-ci, voilà celui-ci. Vous voyez, donc c'est ton semblable qui devient ton ennemi. Et quelqu'un, par exemple, avec qui tu as cheminé ensemble dans ce métier. Mais sauf qu'aujourd'hui, il bénéficie de certains privilèges, de certaines largesses, et il croit que c'est bon de te prendre aujourd'hui comme l'agneau sacrificiel.
D'accord. Modibo, quels sont les droits des journalistes les plus violés au Mali ?
Bon, également déjà, nous sommes protégés par une loi. Déjà avec la réforme récemment, c'est l'article 15, si je ne me suis pas trompé, qui protège les journalistes à travers notre loi qu'on appelle la loi 046 ou bien la loi 2000. Et également, les droits qui sont quotidiennement violés, c'est comment avoir l'accès à l'information. C'est un droit fondamental. Tout journaliste doit avoir accès à l'information. Mais aujourd'hui, il y a des informations qu'on ne va jamais donner aux journalistes, alors que c'est un droit et qui est même constitutionnel. Également, j'avais parlé aussi de la liberté d'expression. Au moment où nous faisons ce qu'on appelle la censure ou l'autocensure, notre droit est violé. Parce que là, nous, comme on le dit les Ivoiriens, les meilleurs journalistes, dans un contexte particulier, c'est celui qui est en vie. Et chaque fois, nous avons une telle idée en tête. Pour faire du journalisme, il faut exister d'abord. Là, notre droit est violé. Raison pour laquelle j'ai toujours parlé du contexte particulier, qu'on ne peut pas parler aujourd'hui du droit ou des obligations des journalistes actuellement. Mais par contre, nous parlons de la survie. Aujourd'hui, nous parlons de la survie. Pas de la liberté d'expression, ni liberté de la presse, mais de la survie. Mais nous allons nous battre pour que cette liberté d'expression, cette liberté de la presse soit respectée, que de renforcer davantage...
Quelles sont les entraves à cette liberté d'expression ?
Bon, les entraves sont là. les entraves sont quotidiennes, comme je vous dis. Imaginez des journalistes d'investigation, d'ailleurs, qui sont très bien organisés aujourd'hui au Mali, au sein d'une association, ne touchent pas à certains sujets. J'ai toujours parlé de l'autocensure. Déjà, il y a une pression sournoise qui est sur nos têtes. Voilà, une épée de Damoclès qui est là. Vous voyez, avec ça, mais on comprend, parce qu'il faut reconnaître aussi que je ne parlerai pas de la fibre patriotique, mais nous sommes aussi des Maliens, nous mesurons la situation et nous nous conformons également au contexte. Et je suis persuadé que nous allons retrouver entièrement notre liberté d'expression, notre liberté de la presse, peut-être après cette période de transition. Si le pays revient normal, je suis sûr que nous allons jouer pleinement notre rôle. Parce que vous savez, quand on dit que la presse est un contre-pouvoir, souvent c'est mal interprété ou bien c'est pas compris par certaines choses. Nous sommes un contre-pouvoir, ne signifie pas que nous sommes contre le pouvoir. Voilà ce que souvent on a essayé de véhiculer dans certains langages, mais les médias ne sont pas contre le pouvoir. Mais nous avons des actions pour contrôler le pouvoir. Et nous sommes tenus à dire la vérité, et rien que la vérité. Souvent, c'est cette vérité qui dérange certains. Et si cette vérité dérange certains, la vie des journalistes souvent est risquée. Raison pour laquelle il y a d'autres formes de menaces aujourd'hui qu'on appelle cyber-intimidation, cyber-harcèlement, et ces différentes formes de menaces pèsent aujourd'hui sur les journalistes.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que par rapport aux journalistes qui sont en temps levé, que les dossiers seraient classés. Alors, quelle est la part des responsabilités des fêtières de la presse par rapport à cette situation?
Bon, par rapport à cette situation, et chaque fois qu'on touche à un seul cheveu d'un journaliste, toutes les fêtières se mobilisent comme une seule personne. Le cas RSA, c'était l'enlèvement d'Aliou Touré, qui a été enlevé pendant 4 jours, et nous ne savons pas où il était. Nous nous sommes réunis ici à la maison de la presse en lançant un ultimatum. Et le lendemain, il a été libéré. Je peux dire que c'est grâce à la pression des différentes fêtières qu'au moins notre confrère a été libéré 4 jours après son enlèvement. Et il y a cette solidarité mécanique entre les fêtières qui sont là. Il ne s'agit pas d'être membre des appels ni membre de l'URTEL, mais chaque fois on touche à un journaliste ou bien un journaliste se trouve en danger. C'était le cas d'Issaka Tamboura. Lorsqu'il a été enlevé, je me souviens, il y a eu une très grande rencontre ici à la maison de la presse. Il y a même des journalistes, en regardant leur visage, j'ai l'impression qu'ils pleuraient ces jours quand il était enlevé. Quand j'écoutais même son témoignage, c'était très émouvant. Nous, on n'a pas vécu, mais on imaginait tout. Vous voyez. Aujourd'hui, au niveau des fêtières, il faut reconnaître surtout, c'est une occasion pour moi de remercier Bandjoukou Danté, qui est très réactif. Chaque fois un journaliste est en danger, on s'informe, on se réunit et également on se mobilise pour la libération de ces derniers. Souvent, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a raison ou bien n'a pas raison? Non. L'essentiel, la première action à poser, c'est de le libérer d'abord. Et après, les autres viendront.
D'accord. Tamboura, est-ce que vous estimez qu'il existe vraiment une volonté réelle de mettre fin à l'impunité contre les journalistes au Mali?
Bon, vous savez, comme il a dit, la presse, c'est un contre-pouvoir. Donc la presse, c'est... Les journalistes, ce sont des témoins de l'opinion publique. Et vous savez, vous ne verrez jamais un régime, qu'il soit démocratique. Il a fait la comparaison. Malgré que nous soyons en 2016 et dans un régime démocratique, notre confrère Birama a disparu. Et non seulement les enquêtes n'ont pas avancé, mais aussi il n'y a pas de procès. On ne sait pas ce qui s'est passé de manière exacte. Il ne faut pas oublier qu'aucun pouvoir, qu'il soit démocratique ou un pouvoir militaire, ne va dire aux journalistes, dites ce que vous voulez. Ce qu'on a à faire, c'est de lutter et d'arracher la parole. Cette liberté d'expression, on l'arrache. Maintenant, par rapport à s'il y a des efforts, ça répond à votre question. Aucun régime ne va faire en sorte que les journalistes disent tout ce qu'ils veulent ou qu'ils fouillent partout où ils veulent. Puisque la gouvernance, elle est difficile. Non seulement il y a des personnes qui sont vraiment des personnes qui gouvernent mal, et donc ces personnes-là ne vont pas accepter que vous fouinez dans leurs nœuds. Et alors, et d'autres aussi qui font des erreurs graves, en voulant réparer ces erreurs, ils aggravent les erreurs. Et les journalistes qui sont là à fouiner sont vus comme des ennemis. Et donc personne ne va, aucun régime ne va nous dire « dites ce que vous voulez ». C'est à nous de savoir nous organiser et de pouvoir devenir ce contre-pouvoir auquel on prétend. Et donc, c'est aussi pour poser le problème par rapport à la disparition de Birama d'abord depuis 2016. Je voudrais dire que depuis tout ce temps, on dit que Birama, il a disparu. RSF dit qu'il est probablement mort. Mais RSF fait quelque chose aussi de son côté. RSF a collaboré avec les deux justices, d'abord la justice malienne et la justice française. Mais il faut noter que depuis que les relations entre le Mali et la France aussi ont connu des difficultés, il y a un blocage, il n'y a pas de coopération judiciaire. Et ça fait que ça n'avance pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de volonté, mais ce volet, c'est un volet quand même assez global parce que c'est les deux pays qui ne coopèrent plus de cette manière-là. Donc il faut comprendre que le blocage, c'est à tous les niveaux. Maintenant, je voudrais aussi ajouter sur le fait que les journalistes, ce ne sont pas des ennemis. Il faut que les gens se le comprennent. C'est des gens issus de la communauté. Et la fonction journalistique n'est pas une fonction qui va à l'encontre des intérêts de la communauté. Elle doit surtout susciter des questions pour amener des solutions. Donc la communauté a des problèmes, la mauvaise gouvernance, l'injustice, l'impunité. C'est de tout ça qu'on doit parler. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des vermines aussi qui non seulement salissent la profession, mais portent atteinte à la dignité non seulement des journalistes, mais aussi de la communauté. Parce que, oui.
Modibo a parlé tout de suite d'une loi de la nouvelle constitution qui met à l'abri la protection des journalistes. Est-ce à dire que c'est un lierre d'espoir?
Oui, on peut dire que c'est une lierre d'espoir, mais c'est un régime qui le fait. Alors, il y a un autre qui va venir après. Ensuite, un autre. Donc, c'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un combat d'une seule journée. On ne va pas crier victoire tout de suite. Mais il faut que les journalistes s'organisent. Il faut bien l'écouter. Il faut que les journalistes nettoient la profession. Il faut que la profession soit nettoyée. Il faut que les gens se forment. Parce qu'on a comme l'impression que le niveau aussi est en train de baisser. Et je voudrais aussi faire cas des menaces psychologiques qui pèsent sur les journalistes. On a vu ici l'exemple de notre confrère, notre aîné Sahana Takiyou, qui a tout simplement, en 2 minutes, appelé à ce qu'il y ait un dialogue. Il a émis un point de vue. Un journaliste aussi a une opinion. C'est vrai qu'il y a l'information, mais il y a l'opinion aussi, c'est comme les citoyens. Mais les gens se sont attaqués. Et à Sahana, de manière irrespectueuse,
en estimant que le message est mal compris.
Et finalement, quelqu'un aurait pu porter atteinte à la vie du monsieur. Dieu faisant, il s'en sort jusqu'à présent. Mais il faudra que les autorités soient regardantes sur ces questions-là. Il n'a donné que son opinion. Il ne s'est attaqué à personne. Et aujourd'hui, c'est Sahana. Demain, c'est qui? Donc, il faut le dire. Les autorités sont responsables de ce qui va arriver aux journalistes qui ne font que donner leur opinion.
On me fait signe que malheureusement nous n'avons plus de temps. C'est ainsi que prendra à fond ce grand dialogue qui réfléchissait sur le journalisme, un métier de plus en plus risqué au Mali. Et nous étions avec Modibo Fofana, président de l'Appel Mali, Issiaka Tamboura, directeur de publication de l'hebdomadaire Solft, et Massiré Diop du journal indépendant. À la présentation de ce grand dialogue, Imrana Kilomaïga, merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.